Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. La mer, de Jules Michelet.
Inspiré par les sciences du vivant florissantes à son époque, l'historien Jules Michelet reconnaît en la nature une force éternelle de création. La mer est pour lui la forme la plus énergique de ce mouvement de vie perpétuelle, avec tous ses peuples qui construisent des mondes en son sein. Le pêcheur attardé dans les nuits de la mer du Nord voit une île, un écueil, comme un dos de montagne qui plane, énorme sur les flots. Il y enfonce l'ancre, l'île fuit et l'emporte. Léviathan fut cet écueil. Milton. Erreur trop naturelle. Dumont d'Urville y fut trompé. Il voyait au loin des brisants un remous tout autour. En avançant, des taches blanches semblaient désigner un rocher. Autour de ce banc, l'hirondelle et l'oiseau des tempêtes, le pétrel, se jouaient, s'ébattaient, tournoyaient. Le rocher surnageait, vénérable d'antiquité, tout gris de coronules, de coquilles et de madrépores. Mais la masse se meut, deux énormes jets d'eau qui partent de son front révèlent la baleine éveillée. L'habitant d'une autre planète qui descendrait sur la nôtre en ballon et d'une grande hauteur observerait la surface du globe, voulant savoir s'il est peuplé, dirait « Les seuls êtres qu'il m'est donné de découvrir ici sont d'assez belle taille, de 100 à 200 pieds de long. Leurs bras n'ont que 24 pieds, mais leur superbe queue de 30 bat royalement la mer, la maîtrise les fait avancer avec une rapidité, une aisance majestueuse auxquelles on reconnaît très bien les souverains de la planète. » Et il ajouterait « Il est fâcheux que la partie solide de ce globe soit déserte où n'est que des animalcules trop petits pour qu'on les distingue. La mer seule est habitée et d'une race bonne et douce. La famille y est en honneur, la mère allait avec tendresse, et quoique ses bras soient bien courts, elle trouve moyen, dans la tempête, de serrer contre elle-même et de protéger son petit. Ils vont ensemble volontiers. On les voyait jadis naviguer deux à deux, parfois en grande famille de 10 ou 12 dans les mers solitaires. Rien n'était magnifique comme ces grandes flottes, parfois illuminées de leur phosphorescence, lançant des colonnes d'eau de 30 à 40 pieds qui, dans les mers polaires, montaient fumantes. Ils approchaient, paisibles, curieux, regardant le vaisseau comme un frère d'espèces nouvelles. Ils y prenaient plaisir, faisaient fête aux nouveaux venus. Dans leur jeu, ils se mettaient droit et retombaient de leur hauteur à grand fracas, faisant un gouffre bouillonnant. Leur familiarité allait jusqu'à toucher le navire, les canaux. Confiance imprudente trompée si cruellement. En moins d'un siècle, la grande espèce de la baleine a presque disparu. Leurs mœurs, leur organisation sont celles de nos herbivores. Comme les ruminants, ils ont une succession d'estomacs où s'élabore la nourriture. Les dents leur sont peu nécessaires, ils n'en ont pas. Ils paissent aisément les vivantes prairies de la mer. J'entends les fucus gigantesques, doux et gélatineux. J'entends des couches d'infusoires, des bancs d'atomes imperceptibles. Pour de tels aliments, la chasse n'est pas nécessaire. N'ayant nulle occasion de guerre, ils ont été dispensés de se faire les affreuses mâchoires et les scies, ces instruments de mort et de supplice que le requin et tant de bêtes faibles ont acquis à force de meurtre. Ils ne poursuivent point. C'est l'aliment plutôt qui va à eux, apporté par le flot. Innocents et paisibles, ils engouffrent un monde à peine organisé qui meurt avant d'avoir vécu, passe endormi à se creuser de l'universel changement. Nul rapport entre cette douce race de mammifères qui ont, comme nous, le sang rouge et le lait, et les monstres de l'âge précédent, horribles avortons de la fange primitive. Les baleines, bien plus récentes, trouvèrent une eau purifiée, la mer libre, et le globe en paix. Il avait rêvé son vieux rêve discordant des lézards-poissons, des dragons volants, le règne effrayant du reptile. Il sortait du brouillard sinistre pour entrer dans l'aimable aurore des conceptions harmoniques. Nos carnivores n'avaient pas pris naissance. Il y eut un petit moment, quelques 100 000 années peut-être, de grande douceur et d'innocence, où sur terre parurent les êtres excellents, sarigues, etc., qui aiment tant leur famille, la portent sur eux et en eux, la font, s'il le faut, rentrer dans leur sein. Sur l'eau, parurent les bons géants. Le lait de la mer, son huile, surabondait. Sa chaude graisse animalisée fermentait dans une puissance inouïe. Voulait vivre. Elle gonfla, s'organisa en ces colosses, enfants gâtés de la nature, qu'elle doua de force incomparable et de ce qui vaut plus. Du beau sang rouge ardent. Mais, avec ce don magnifique, augmente infiniment la sensibilité nerveuse. On est plus vulnérable, bien plus capable de jouir, de souffrir. La baleine n'ayant guère le sens du chasseur, l'odorat ni l'ouïe très développé, tout en elle profite au toucher. La graisse qui la défend du froid ne la garde nullement d'aucun choc. Sa peau, finement organisée de 6 tissus distincts, frémit et vibre à tout. Les papilles tendres qu'on y trouve sont des instruments de tact délicat. Tout cela animé, vivifié d'un riche flot de sang rouge, qui même en tenant compte de la taille différente, surpasse infiniment en abondance celui des mammifères terrestres. L'amour, chez eux, soumis à des conditions difficiles, veut un lieu de profonde paix. Ainsi que le noble éléphant, qui craint les yeux profanes, la baleine n'aime qu'au désert. Le rendez-vous est vers les pôles, aux anses solitaires du Groenland, au brouillard de Bering, sans doute aussi dans la mer tiède qu'on a trouvée près du pôle même. La retrouvera-t-on ? On n'y va qu'à travers les défilés horribles que la glace ouvre, ferme et change à chaque hiver, comme pour empêcher le retour. Pour eux, on croit qu'ils passent sous les glaces d'une mer à l'autre par la voie ténébreuse. Voyage téméraire. La solitude est grande. C'est un théâtre étrange de mort et de silence pour cette fête de l'ardente vie. Un ours blanc, un phoque, un renard bleu peut-être, témoin respectueux, prudent, observe à distance.
Extrait du livre La mer de Jules Michelet, édité en 1875 par Michel Lévy Frères, à Paris. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «